Bonjour à tous, vous m'entendez? Bon, très bien. Très heureux d'être là parmi vous ce matin. Donc, ce que Michael n'a pas dit dans son excellente présentation, c'est que si on est venu dans la région, c'est parce qu'on a rejoint moi, pour ma part, j'ai rejoint l'équipe de la CLC à Montélimar. Et donc, ça fait maintenant 9 ans que nous sommes voisins sans trop se connaître, parce qu'on est sur Montélimar. Ce vendredi, nous avons reçu justement à la CLC de Montélimar pour une conférence David Sutherland, que vous connaissez peut-être, qui est missionnaire au sein des CAEF depuis bien des années, dans l'ouest, le nord de la France et maintenant dans une église à Lyon. Et en fait, il est venu pour une conférence sur le thème qui s'appelait « Ancrage et héritage ». En fait, il est auteur de deux livres, on peut dire deux volumes qui ont le même titre, et qui s'appellent « À chaque jour suffit sa grâce ». Le principe de ces livres, c'est que ce sont des anecdotes historiques, donc des faits réels, des anecdotes qui se sont passées depuis le deuxième siècle de l'ère chrétienne jusqu'au XXIe siècle, donc on peut dire quasiment toute l'histoire de l'Église, et qui appuient sur l'importance de la chaîne de la transmission de la foi. Si vous êtes là ce matin, peut-être que Dieu vous a foudroyé comme Paul sur le chemin de Damas, mais plus probablement, vous êtes aussi issu de familles chrétiennes ou de personnes qui vous ont témoigné, parlé de Christ et grâce auxquelles vous vous êtes converti. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, bien sûr, dans tous ces exemples, il y a des exemples de foi coûteux ou des gens qui ont payé le prix cher pour leur foi. Il y a des exemples de prières persévérantes, parfois sur des générations. Vous pouvez découvrir l'histoire des Guinness, savoir pourquoi dans la célèbre famille des brasseurs irlandais, il y a des chrétiens depuis bien des générations, depuis le 19e siècle. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'origine méconnue et modeste de beaucoup de ces personnes. Et ça rejoint le message que je vais vous apporter ce matin, qui va parler vraiment de la valeur d'une vie entièrement consacrée à Dieu. Cette vie consacrée, donnée à Dieu, soulignée dans chaque page de l'histoire du christianisme depuis 2000 ans maintenant, elle est aussi particulièrement présente dans cet épître de Paul aux Philippiens que vous parcourez depuis quelque temps maintenant. Vous connaissez donc ce ton personnel et chaleureux de cet épître qui laisse entrevoir la qualité de la relation que Paul avait avec cette église, avec ses chrétiens en particulier, et avec également ses compagnons d'œuvre. Donc vous savez que Paul est en captivité, ou dans une certaine liberté surveillée, probablement qu'il occupe une maison à Rome, et qu'il persévère, il est heureux malgré tout, parce que l'Évangile avance, que les possibilités de témoignage sont là, et il a l'occasion d'échanger avec d'autres églises, et avec les Philippiens en particulier. Et dans l'épître des Philippiens, vous savez que, après avoir décrit l'exemple suprême de Christ, il exhorte à suivre justement cet exemple dans l'attitude de vie. Il va maintenant, et c'est ce que nous allons voir ce matin, mettre l'éclairage sur deux modestes serviteurs du Seigneur que sont Timothée et Épaphrodite. Cultiver les sentiments qui était en Jésus-Christ. Cultiver cette attitude de vie, c'est s'engager humblement dans le service chrétien, en toute simplicité. C'est vraiment le cœur central du message, cultiver les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme il l'a exhorté juste avant. Cultiver cette attitude de vie, c'est s'engager humblement dans le service chrétien, en toute humilité. Juste avant, Paul a exhorté les Philippiens. Il a parlé des choses qui se trouvent sans doute absolument pas dans cette église, mais il leur a parlé de la la rivalité, la vaine gloire, l'égocentrisme, pour dire que tout cela n'a pas sa place dans la communauté chrétienne. Et maintenant, de façon très concrète, par ces deux exemples, Paul va rendre visible le message essentiel de l'exemple de Christ qu'il vient de décrire. Christ a renoncé à certains droits. Lui qui est le maître de l'univers, il s'est dépouillé. Lui qui était Dieu, il va apparaître comme un simple homme afin de venir nous sauver. Alors, je vais faire trois points dans ce message. Premièrement, on va parler de Timothée. Timothée, personne comme lui ne se soucie de vous. Ensuite, Épaphrodite, un nom qu'on entend uniquement à cet endroit dans le Nouveau Testament. Épaphrodite, il a exposé sa vie pour le service que vous ne pouviez pas me rendre, dit-il aux Philippiens. Et puis, troisièmement, on va voir deux axes de réflexion, prendre un petit peu de hauteur sur aussi l'ensemble de l'Épître, peut-être des choses qui ont déjà été dites, mais qui valent le coup d'être explorées un peu plus. C'est deux axes de réflexion de Paul dans Philippiens, celui de la vie qui n'est jamais perdue, et aussi surtout celui de la joie. Je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 2, les versets 18, et je vais juste lire aussi le premier du chapitre 3. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Timothée, personne comme lui ne se soucie de vous. Timothée est connu, c'est le fidèle compagnon de Paul. En l'envoyant à Philippe, c'est comme si Paul envoyait un petit peu de lui-même. Et d'ailleurs même, il espère le suivre bientôt selon l'issue du procès qui va avoir lieu. Envoyer Timothée chez les Philippiens, c'est pour Paul une manière de renforcer les liens qui les unit à lui. Il sait très bien que Timothée prendra soin d'eux. Il va les encourager en leur enseignant la saine doctrine de l'Évangile, et il compte sur lui également pour lui envoyer des nouvelles importantes de leur état, afin qu'il soit lui-même encouragé et qu'il sache aussi comment prier plus précisément pour eux malgré la distance. D'ailleurs, la lettre aux Philippiens, il enseigne et il réagit par rapport à des nouvelles précédentes qu'il avait eues d'une lettre précédente justement par Épaphrodite. Oui, là on parle de Timothée. Donc Timothée, bien que timide, sans doute encore jeune à l'époque, est quelqu'un de fiable, quelqu'un de volontaire. Il a un cœur de pasteur, un cœur de berger. Il se soucie réellement des Philippiens, de cette petite église, dans un coin un peu perdu à l'époque, première église d'Europe, composée de nouveaux croyants d'origine païenne, donc pas beaucoup d'arrière-plan chrétien, et qui fait face à beaucoup de pression, comme les églises en général à cette époque. Il est le seul à se soucier de vous. Timothée n'est pas une grande star évangélique, mais c'est quelqu'un qui accomplit un service discret, fidèle, mais qui va porter du fruit. Il est le seul à se soucier de vous. Car pas mal de chrétiens, c'est vrai qu'il y a pas mal de chrétiens qui entouraient Paul, même dans cette période de captivité, et d'autres auraient pu être envoyés, et ce n'est pas que Timothée. Mais Paul n'a pas trouvé quelqu'un qui était comme lui, qui était motivé à ce point par leur situation et par la cause de l'Évangile. Il mentionne une raison en disant « ils cherchent leurs propres intérêts ». Paul, au début de l'Épître, a même évoqué des coups bas qu'il a reçus, qui ont été dirigés contre lui par des personnes qui sont mentionnées au chapitre 1, versets 15 et 17, où il est dit que certains animés d'un esprit de rivalité annoncent Christ, mais avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit, mais voilà, ce n'est pas vraiment très chouette tout ça. C'est une réalité humiliante, n'est-ce pas, pour le corps de Christ, pour l'Église, et un sujet de vigilance pour chacun d'entre nous, moi le premier, dans une société où l'individualisme est fortement valorisé. Suis-je davantage motivé par mes intérêts propres ou suis-je motivé pour la cause de l'Évangile? Et comment est-ce que cela se manifeste dans ma vie quotidienne, dans mes objectifs, dans mes pensées et dans mon service et mes échanges avec mes frères et sœurs? Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Au verset 4 du chapitre 2. Ça, c'est selon la version second 21. Timothée est un exemple à suivre. Il se détache vraiment des autres en ayant un cœur pour les autres. Mais pour le bien des Philippiens, Paul est maintenant prêt à se séparer de Timothée, qui est son ami le plus proche et son soutien le plus précieux. Il est un père pour lui, un père spirituel. Épaphrodite, il a exposé sa vie pour le service que vous ne pouviez pas me rendre. Épaphrodite était originaire de l'église de Philippe. Il avait été envoyé initialement vers Paul par l'église. C'est lui, probablement, le porteur de la lettre à laquelle Paul répond ici. Mais il a été envoyé pour apporter un don, de l'argent, et aussi pour rester avec Paul et subvenir à ses besoins pour le soutenir dans sa captivité. Et ici, avec un sentiment d'urgence, Paul veut rendre Épaphrodite aux Philippiens pour qu'il puisse retrouver les siens, peut-être probablement sa famille aussi, et les rassurer sur son état de santé puisqu'ils avaient appris qu'il avait été malade. Et Épaphrodite sera également probablement le porteur de la lettre que Paul est en train d'écrire ici. Épaphrodite, quelqu'un de sans doute jeune, il a accepté une mission dangereuse en entreprenant un tel voyage de Philippe jusqu'à Rome. Les routes ne sont pas sûres, la mer peut être dangereuse, Paul a fait naufrage. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce voyage, mais on sait qu'il transportait avec lui de l'argent, ce qui rendait encore la situation de ce voyage encore plus dangereuse. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est tombé gravement malade. On ne sait pas si c'était suite au voyage, est-ce que c'était en raison du voyage et de l'inconfort consécutif à ce voyage, c'est possible. En tout cas, il y a un lien qui est dit entre le service qu'il a rendu et sa maladie. Il a pris des risques. Il a failli payer le prix fort, il a failli payer de sa vie pour le service qu'il a rendu. Et là, ce qui est admirable, c'est qu'on voit que ce soit Paul, Timothée, Épaphrodite et même la communauté des Philippiens, chacun pour sa part, dans cette histoire, a cherché l'intérêt des autres en premier, plutôt que les siens personnels. Et en cela a vécu les valeurs de l'Évangile. Timothée, choisi pour être envoyé en mission et affermir l'Église de Philippe, il est choisi pour son souci réel des autres. Épaphrodite a répondu fidèlement à une mission dans laquelle sa vie a été exposée et il a failli y passer. Les Philippiens, ils ont envoyé un don matériel à Paul et ils ont délégué Épaphrodite pour soutenir Paul dans sa captivité. Les Philippiens ont démontré ainsi un certain sacrifice. Et Paul, maintenant, accepte le sacrifice de se séparer à la fois de Timothée et d'Épaphrodite. On peut penser que c'est ses deux plus proches compagnons, et il les envoie tous les deux. Bien sûr, il espère aussi les rejoindre par la suite, mais il choisit de se séparer d'eux pour le bien des Philippiens. Il est heureux du bonheur des autres, celui d'Épaphrodite, de celui qui va rentrer, et celui des Philippiens. Il trouve sa joie dans les retrouvailles à venir, dans lesquelles il sera lui-même absent. C'est beau, c'est remarquable de voir ce désintéressement et cet amour finalement manifesté dans ces choses tellement concrètes. Bien sûr, il espère les rejoindre, mais il n'est pas du tout sûr de l'issue du procès. Ça peut tourner d'une manière ou d'une autre, et il l'exprime très bien au début. Et on arrive à ce troisième et dernier point, deux axes de réflexion de Paul dans Philippiens. Ce premier axe, justement, est lié à son sort, l'axe de la vie jamais perdue ou du dilemme gagnant-gagnant. Paul est lui-même tiraillé, vous savez, à sa propre vie, il l'a exprimé au chapitre 1, il est tiraillé entre le désir profond d'être avec Christ, s'il devait devenir martyr, et la nécessité joyeuse de continuer à œuvrer pour les Philippiens. On pourrait dire que c'est un genre de dilemme, mais c'est un dilemme où, de son point de vue, il est gagnant à tous les coups. Déjà emprisonné, est-ce qu'il va être exécuté pour la cause de l'Évangile, ou est-ce qu'il va vivre encore aussi pour la cause de l'Évangile et continuer son ministère d'intercession, d'enseignement, d'encouragement aux églises? Pour le bien des Philippiens, il penche vers la persévérance. Mais ce n'est pas lui qui choisit, c'est Dieu qui est souverain sur tout ça. Paul, dans une autre épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, il dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et cette conviction d'être vraiment dans les mains de Dieu, habite Paul à un degré très élevé. Et il désire la transmettre. Il désire la transmettre à ses compagnons, dont Timothée et Épaphrodite. Il désire la transmettre aux Philippiens. Il désire la transmettre à nous ce matin. Si nous sommes en Christ, rien n'est perdu. Et c'est dans ce contexte qu'il traverse des épreuves et des tristesses qui ne minimisent pourtant pas. À la fin de Romains 8, au verset 35 à 39, il est dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Toutes ces choses, Paul les a vécues, les a expérimentées, ses compagnons aussi. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On peut penser que quelqu'un comme Épaphrodite avait la vérité de ces versets bien ancrés dans son cœur. Où est-ce que j'en suis, moi, personnellement, dans ma vie concrète, dans les épreuves que je peux traverser? Si tu es en Christ, rien, absolument rien, ne pourra jamais te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, et on arrive au deuxième axe, l'axe de la joie. Réjouissez-vous en toutes circonstances. En plus de la section 19 à 30 qui m'était confiée ce matin, je me suis permis de lire également les deux versets qui étaient de part et d'autre de cette section, et tous les deux concernent l'encouragement, l'exhortation de Paul, réjouissez-vous. Cette expression, réjouissez-vous, soyez dans la joie, autour de ce thème-là, dans Philippiens, imaginez, 60 fois, elle est répétée. Philippiens, c'est pas très long, 60 fois, c'est beaucoup, pour une petite lettre comme ça. Aucune considération, aucune circonstance ne devrait éloigner les Philippiens de la joie en Dieu et de la nécessité de la maintenir. Ou dit positivement, n'importe quel sujet de reconnaissance à Dieu est l'occasion d'exprimer et de ressentir la joie dans le Seigneur. C'est ce que Paul vivait malgré ses épreuves, malgré l'incertitude de sa vie. Quelle place a la joie dans ma vie ? Quelle place est-ce que la parole de Dieu procure-t-elle de la joie dans ma vie, dans celle de notre communauté ? Et paradoxalement, pour Paul, et c'est également le cas pour toute vie, on a parlé de l'automne, des contrastes, des choses agréables, positives, et puis des choses plus difficiles. Ces choses-là sont pas ou bien, c'est simultané en fait, c'est simultané. Cette joie est vécue simultanément avec les difficultés, avec les épreuves, avec la tristesse inévitable qu'il évoque même dans ce passage à plusieurs reprises. Il a été préservé de la tristesse concernant Épaphrodite, puisque Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Si Paul dit ça, c'est que des tristesses, il n'en avait pas juste une de temps en temps. Il était baigné dans la tristesse, si je veux dire, dans sa situation. Ou au verset 28, « Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Donc la tristesse, c'était aussi, avec l'épreuve de la vie de Paul, quelque chose de réel et de quotidien. Et pourtant, il exhorte à la joie et je suis convaincu qu'il la vivait. La joie chrétienne, selon Paul, n'est pas déconnectée de la vie réelle. Avec les épreuves douloureuses et parfois extrêmes, beaucoup ici pourraient en témoigner mieux que moi, j'en suis sûr. Je conclus. Dans l'enseignement central de ce chapitre 2 aux Philippiens, Paul exhorte ses interlocuteurs à avoir une attitude qui imite celle de Christ. Et puis, il cite en exemple deux de ses plus humbles compagnons. Il ne les cite pas pour leur prestance ou leur popularité, mais il les cite pour leur fidélité dans un service chrétien persévérant qui cherche l'intérêt des autres et de Christ, plutôt que le leur. S'attacher à servir avec l'apôtre Paul, ce n'était pas l'assurance d'une vie tranquille. Ça, je ne crois pas. Hein. Mais pourtant, Timothée et Épaphrodite n'ont pas reculé. Timothée se soucie de vous, comme personne d'autre, leur dit-il. Épaphrodite, il a exposé sa vie pour le service de l'Évangile. Laissons-nous inspirer par ces deux exemples qui révèle l'exemple de Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants parce que elle nous parle de la vie réelle. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu fais dans ton Église depuis 2000 ans, pour l'exemple parfois simple, parfois modeste, de ces personnes qui nous ont précédés et qui ont eu un tel impact, à tel point qu'on en parle encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'enseignement de Paul et pour ce que tu veux nous dire ce matin. Que cette parole soit ancrée dans nos vies et qu'elle porte des fruits. Au nom de Jésus. Amen.